Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le pays va mal et le processus électoral en cours est caractérisé par un manque délibéré de transparence. Déclaration de 6 candidats présidents de la République dans un communiqué parvenu hier mardi à notre rédaction. Il dénonce le flou entretenu par la CENI sur les aspects financiers, logistiques et organisationnels du processus actuel. Au Nord Kivu, la situation reste préoccupante dans la zone occupée par les rebelles et leurs alliés. Selon plusieurs sources, alors que les M23 viennent de décréter un couvre-feu dans les principales contrées rurales du territoire de Rutshuru, toutes entrées et sorties sont interdites dans la cité de Kichanga depuis plus d'une semaine. L'invité de ce journal est le point focal provincial de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit APROSEC Nord Kivu. Henri Mouzalioua nous parle de l'état de santé des coopératives d'épargne au Nord Kivu et des défis dans ce secteur à l'occasion de la célébration le 31 octobre de la Journée internationale de l'épargne. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonne écoute. Le pays va mal et le processus électoral en cours est caractérisé par un manque délibéré de transparence. C'est ce qu'affirme 6 candidats présidents de la République dans un communiqué parvenu hier mardi à Radio Kapi. Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Marie-Josée Ikofu, Seth Kikuni et Franck Diongo estiment que le flou entretenu par la CENI sur les aspects financiers, logistiques et organisationnels du processus actuel annonce des élections chaotiques. Il plaide donc pour la publication complète de la cartographie des bureaux de vote, des listes électorales et invite la population à se préparer pour une veillée électorale le 20 décembre prochain. Des détails avec Michel Kifindangoy.
Dans une déclaration parvenue ce mardi à Radio Okapi, les 6 candidats présidents de la République fustigent que depuis le début du processus électoral, la CENI cautionne de nombreuses irrégularités qui compromettent gravement la concorde nationale et la paix civile dans le pays. Après autant de légèreté et flou artistique qui caractérisent toutes les opérations préélectorales, Fayoulou, Katumbi, Mukwege, Kikuni, Ifoku et Diongo exigent des mesures urgentes pour sauver le processus électoral. Les 6 candidats présidents insistent notamment sur la publication complète des listes électorales, de la cartographie des bureaux de vote et la géolocalisation des machines à voter, mais aussi l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice. Ils affirment leur engagement à œuvrer ensemble pour empêcher toute manipulation des résultats des votes et demandent une rencontre urgente entre la CENI et les candidats présidents de la République pour construire le consensus essentiel à une élection apaisée. Il rejette tout appel au tribalisme, à la violence et la division entre Congolais et invite la population à se préparer à la veillée électorale pour barrer la route à toute fraude.
La mission d'observation électorale SCC5O félicite la Cour constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité aux prochaines élections, notamment en repêchant 2 candidats à l'élection présidentielle qui avaient été décalés par la CENI. Cette organisation dit constater que le travail réalisé par la CENI et la Cour constitutionnelle favorise la perception par les publics qu'elles ont travaillé de manière indépendante. Dans un communiqué rendu public hier à Kinshasa, cette structure demande à la Commission électorale de publier aussi la cartographie des bureaux de vote en format téléchargeable et imprimable pour qu'elle soit facilement analysable et utilisable par d'autres parties prenantes. Grâce à Mzati Masanzi pour plus de détails.
La mission d'observation électorale 5O-SCC exhorte la CENI et la Cour constitutionnelle à confirmer cette bonne perception lors de la publication des résultats provisoires et le traitement du contentieux des résultats selon les dispositions pertinentes de la loi électorale. C'est entre autres l'affichage des résultats devant les bureaux de vote et par bureau de vote au niveau des centres locaux de compilation des résultats et des installations de la CENI, la publication en temps réel des résultats provisoires par bureau de vote d'une part et d'autre part le recours aux procès-verbaux et fiches des résultats qui seront transmis par la CENI lors du traitement du contentieux électoral par les cours et tribunaux concernés. La MOE5O-SCC dit constater que la CENI a affiché la liste électorale provisoire dans quelques antennes, particulièrement à Kinshasa. Elle apprécie également la publication de la cartographie des bureaux de vote. Elle encourage la population, les candidats, les partis et regroupements politiques ainsi que d'autres organisations de la société civile à consulter la dite cartographie afin de connaître le nombre de centres de vote déployés par circonscription sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le nombre de bureaux de vote alloués à chaque centre de vote. Ces informations seront utiles lorsque la CENI va publier les résultats par bureau de vote, souligne le communiqué.
Un processus électoral en RDC toujours, l'accréditation des témoins et observateurs nationaux et internationaux pour les élections générales du 20 décembre est en cours jusqu'au 5 décembre prochain. Pour les élections crédibles, transparentes et apaisées, plusieurs organisations internationales se mobilisent à déployer leurs observateurs au pays. Quels sont ces organismes internationaux qui manifestent un intérêt à accompagner ce processus électoral en RDC? Retrouvons à nouveau grâce à Mzati Masanzi.
Parmi ces organisations internationales figure la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Au mois d'octobre, elle a déployé une mission d'évaluation préélectorale qui, après consultation de toutes les parties prenantes, s'est dit satisfaite du niveau des préparations du processus électoral en RDC. Elle a ajouté qu'elle est prête à revenir pour l'observation des élections au mois de décembre. La même mission d'évaluation préélectorale est menée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEAC. Cette organisation régionale confirme le déploiement de ses observateurs en décembre et s'est dit également rassurée de l'avancement du processus électoral. Le Centre Carter, une autre organisation d'observation électorale, affirme elle aussi que tous les moyens logistiques seront mis en place pour déployer ses observateurs à travers le pays. Par ailleurs, du côté de la CENI, on apprend que plusieurs autres organisations internationales ont déjà manifesté l'intérêt de venir observer les élections au Congo. Quelques-unes ont même déjà reçu l'invitation du gouvernement. C'est notamment l'Union africaine, l'Union européenne, le Forum des commissions électorales de la SADC, SF-SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL et d'autres. Cependant, jusqu'à présent, le nombre total des observateurs à déployer par chaque organisation n'est pas encore connu.
Au Nord Kivu, la police a procédé hier mardi au retrait des affiches et effigies des différents candidats aux prochaines élections placées à travers la ville de Beni. Dans un communiqué publié le 24 octobre dernier, le maire de Beni avait appelé tous les candidats au respect de la loi électorale, interdisant une campagne électorale précoce. Hier mardi, des éléments de la police et les agents de service de la mairie ont sillonné la ville de Beni pour retirer les affiches et effigies des candidats placés dans les endroits stratégiques. Une décision saluée par Fabrice Mouloir-Ali, activiste pour démocratie. Fabrice Mouloir-Ali qui également appelle tous les candidats au respect de la loi électorale. Au Nord Kivu, je le disais au sommaire, la situation reste préoccupante dans la zone occupée par les rebelles et leurs alliés. Selon plusieurs sources, alors que l'M23 vient de décréter un couvre-feu dans les principales contrées rurales du territoire de Rutshuru, toutes entrées et sorties sont interdites dans la cité de Kichanga depuis plus d'une semaine. Des détails avec Rosalie Zawadi.
Dans un communiqué partagé sur ses comptes X lundi, la direction de la rébellion du M23 impose un couvre-feu à partir des 18h pour les engins automobiles et 21h pour les habitants dans toute la zone qu'elle occupe dans les territoires de Rutshuru. Le communiqué définit aussi les axes où les populations ne peuvent plus effectuer des mouvements. Ces restrictions sont plus rigoureuses au niveau de Kichanga où, depuis la réoccupation samedi 21 octobre de la cité par les rebelles, les entrées ou sorties sont interdites. Un convoi de ravitaillement du contingent burundais de l'EACRF a été interdit d'accéder dans Kichanga lundi par les rebelles. Il a dû rebrousser chemin au niveau du village Nyakabingu, indiquent certaines sources de la notabilité locale. Ces sources déplorent le fait que la population ne pouvant même plus accéder aux champs vit des souffrances inédites. Au moins 4 cas de mort par une diarrhée cholériforme sont déjà enregistrés dans les sites des déplacés autour des bases des casques bleus de la MONUSCO et celle de l'EACRF par défaut des prises en charge, indiquent ses sources. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis, comme vous le savez, les affrontements ont repris avec forte intensité hier mardi, en début d'après-midi. Ils opposent l'armée, les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans la partie ouest de Kibumba et Buhumba. Des tirs d'artillerie lourdes étaient entendus dans les parcs nationaux de Virunga. Pour le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, l'armée a le devoir de protéger ses positions initiales, les civils et l'intégrité nationale. Toujours selon lui, malgré le fait que l'armée congolaise reste respectueuse du cessez-le-feu, elle a ce devoir à remplir. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko dans ses propos recueillis par Denis Lukeso.
Nous vous rassurons et nous profitons pour rassurer notre population qu'il n'est nullement question. Alors, nullement question pour les forces armées de la République démocratique du Congo de laisser l'armée rwandaise opérant sous le label de M23 de tenter ou de continuer à tenter à occuper quelques-unes des positions initiales des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme c'est le cas actuellement à Kibumba, au versant du volcan Nyiragongo. Cela fait à peu près 10 jours que l'ennemi tente d'occuper cette position initiale des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous continuons à observer les cessez-le-feu par rapport aux instructions des chefs d'État de la sous-région, mais qu'à cela ne tienne, nous avons le devoir de protéger nos positions initiales, de protéger notre population, mais aussi l'intégrité du territoire national.
Restons dans le Nord Kivu pour parler cette fois des conséquences directes de ces affrontements. En effet, de nouvelles vagues de déplacés internes sont observées chaque jour dans les territoires de Nyiragongo. Le président des déplacés dans la zone, qui lance un SOS, dit avoir déjà recensé 1250 nouveaux ménages dans le seul site du 8e CEPAC à Mounigui. Ces personnes fuient les affrontements en cours entre l'armée et les groupes armés contre les rebelles du M23. Pour Théo Moussekoura, ces personnes sont dépourvues de tout et vivent dans des conditions déplorables. Il plaide pour une assistance d'urgence. Notez aussi que plus de 2600 enfants nouveaux déplacés ne peuvent plus accéder aux cours dans leurs milliers de réfuges dans les groupements et la commune rurale de Kanyabayonga. L'alerte est faite par l'organisation La Veille Humanitaire de la chefferie de Buito. Selon cette structure de la société civile, ces enfants déplacés proviennent des groupements de Bambo, Mutanda, Tongo et Bichoucha, fuyant les derniers affrontements ayant occasionné la réoccupation de leur village par les rebelles du M23. Pour les coordonnateurs de cette structure, l'ensemble des écoles publiques de la zone est saturé et n'a plus de place à la suite du programme de gratuité de l'enseignement de base. Paris Masta qui plaide auprès des humanitaires et du gouvernement congolais en faveur de l'ouverture des écoles d'urgence pour ses enfants. Pendant ce temps, en Ituri, les leaders religieux s'engagent à soutenir les efforts de l'armée pour que la paix soit effective dans la province après les violences des groupes armés déclenchées en 2017. Cela sera fait notamment à travers les activités de sensibilisation de leurs fidèles à se désolidariser des milices et à dénoncer les miliciens qui se dissimulent dans la communauté. Ils ont pris cet engagement au cours d'une conférence organisée lundi dernier à Bunia par la 3e zone de défense de FRDC qui est en mission officielle dans cette province. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Selon les constats faits par les leaders religieux, les conflits armés en Ituri ont assez longtemps duré et ont de nombreuses conséquences sur la population. Il s'agit entre autres de meurtres, pillages, viols ou encore nombre élevé de déplacés. Pour mettre fin à ces sombres tableaux, il faut l'implication de tous pour une paix durable en Ituri. L'église a un rôle prépondérant à jouer car elle est non seulement implantée dans toutes les localités, mais aussi sert de modèle de morale et d'éthique dans la société, a déclaré le président du conseil des confessions religieuses. Ignace Bingi ajoute que les serviteurs doivent sensibiliser leurs membres à collaborer avec l'armée, à se désolidarisant des groupes armés et à dénonçant les inciviques qui se cachent dans la communauté.
S'agissant de ce qui est de la paix, on va traverser la morale, mais nous allons aussi améliorer aussi nos relations avec les militaires. Nous allons aussi asseoir des mécanismes de sensibilisation à travers nos différentes entités.
De son côté, l'armée s'apprête à intensifier les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix à l'est de la RDC, mais aussi à sanctionner des brebis galaises au sein de l'armée, précise des sources militaires. Pour rappel, cette conférence avait pour thème les rôles prophétiques de l'Église face aux défis sécuritaires. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il s'est ouvert hier mardi à Kinshasa les travaux du forum. Ils se sont ouverts hier mardi à Kinshasa les travaux du forum exposition et sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine, le CAF, au Sultani River Hotel. L'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prenantes congolaises du secteur public, du secteur privé et de la société civile sur les opportunités offertes par le ZLECAF, des défis à relever pour sa mise en œuvre afin de les transformer en sources additionnelles. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre congolais, souligne qu'à travers ce forum, la RDC se met sur la voie de répondre au thème de cette année de l'UA, l'Union africaine, celui de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est à ce titre que le gouvernement a déjà institué au préalable un comité national de mise en œuvre de la ZLECAF, sa mission étant, entre autres, l'élaboration d'une matrice d'action à réaliser à court terme pour faire participer la République démocratique du Congo au marché de la ZLECAF.
Actualité internationale.
Au Kenya, la visite royale est marquée par le passé colonial. Arrivé lundi soir, le roi Charles III a évoqué hier mardi les habits coloniaux au Kenya, affirmant qu'il ne pouvait y avoir d'excuses pour des actes de violence odieux et injustifiables qui ont été commis à l'encontre des Kenyans. Hier mardi 31 octobre, le Burkina Faso a célébré le 9 ans de la chute de Blaise Compaoré, ex-chef de l'État, chassé par une insurrection populaire. Une célébration qui a eu lieu dans un climat un peu morose.
L'invité.
L'invité de ce journal est le point focal provincial de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit à Prosek Nord-Kivu. Henri Mouzalioua nous parle de l'état de santé des coopératives d'épargne au Nord-Kivu et des défis dans ce secteur. C'est à l'occasion de la célébration, le 31 octobre, de la Journée internationale de l'épargne. Il s'entretient à Goma avec Denise Loukesso.
Monsieur Henri Mouzalioua, bonjour.
Bonjour madame.
Au Nord-Kivu, quel est l'état de santé des coopératives d'épargne et de crédit à ce jour?
Les coopératives d'épargne et de crédit du Nord-Kivu, de la RDC en général, se portent très très bien. Le secteur se porte bien qu'avant. Vous savez, il y a eu des secousses en 2016 jusqu'un peu en bas. Mais le secteur a repris et la population du Nord-Kivu a repris confiance aux coopératives. Aujourd'hui, nous vous confirmons que le secteur des coopératives va très très bien au Nord-Kivu.
Et cela veut dire quoi concrètement?
Ça signifie que le taux d'ouverture des comptes a beaucoup plus haussé. Le niveau des épargnes aussi a beaucoup plus augmenté qu'avant. Et que même le taux de remboursement des crédits aussi évolue très très bien. À la Banque centrale, on vous dira que la province du Nord-Kivu est la première province pour ce qui est des coopératives d'épargne et de crédit.
La province compte combien de coopératives aujourd'hui?
24 coopératives.
Agréées par
la Banque centrale.
Quelles garanties que les coopératives peuvent donner aujourd'hui aux épargnants? Par rapport à tout ce qu'on a connu dans la province, des coopératives qui sont en train de faillir, qui sont tombées.
Aujourd'hui, les coopératives sont très, très surveillées, de très près par la Banque centrale du Congo. Ce qui fait que, en tout cas, la plupart des indicateurs sont au vert au sein du secteur de la microfinance et des coopératives en particulier. Parce que c'est référent du passé. La Banque centrale a multiplié non seulement les instructions qui recadrent les COPEC, mais aussi il y a des suivis rapprochés, des coachings rapprochés afin que jamais il n'y ait plus de bavures au sein du secteur de la microfinance et des coopératives. Et au niveau interne, au niveau de l'association professionnelle, elle a pris beaucoup plus en main la situation des coopératives en organisant des coachings, des séances d'échange d'expérience, en organisant des formations sur la gouvernance, la gestion des risques, gestion des crédits, épargne, ainsi de suite. Et au niveau institutionnel, chaque coopérative, je peux vous confirmer, a mis en place des mécanismes pour éviter que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduise. Aussi, les secteurs de microfinance, les coopératives, actuellement ont beaucoup de partenaires, que ce soit financier que technique, par rapport au passé. Nous sentons que, en tout cas, la plupart des partenaires s'intéressent aux coopératives pour qu'ensemble, banque centrale, partenaires, dirigeants à Prosek et les coopératives elles-mêmes sont dans cette synergie de lutte contre les abus qui ont eu à se passer dans le secteur des coopératives.
Aujourd'hui, vous pouvez donner des assurances aux épargnants que leur argent est en sécurité dans des coopératives au Nord-Kivu, même si la situation sécuritaire reste volatile.
La population du Nord-Kivu est résiliente, la situation sécuritaire est volatile. Les présidents de la République et les gouvernements entiers sont à pied d'œuvre pour restaurer la sécurité. Et en attendant, nous aussi, en tant que coopérative, nous sommes résilientes. La population elle-même, comme je le disais, les épargnes sont en sécurité et la population le sait très bien. L'inquiétude est des gens dans le passé, dans les oubliettes. J'encourage même ceux qui estimaient qu'il y avait encore des soucis à venir s'approcher des lignes des coopératives agréées au Nord-Kivu en RDC. Et cette personne se rendra compte qu'elle a perdu beaucoup d'état, beaucoup d'argent en estimant qu'il y avait encore des soucis, en ne s'approchant pas des coopératives d'épargne et de crédit. Donc j'encourage tout le monde à avoir des comptes dans des coopératives, à épargner surtout, parce que sans épargne, on ne peut nulle part aller dans l'avenir.
terminer avec les défis auxquels les font face les coopératives d'épargne et de crédit en Nord Kivu.
Les défis, c'est exactement c'est quelques personnes qui continuent à penser qu'il y avait des soucis, mais les plus grands défis des coopératives au Nord Kivu, c'est la situation sécuritaire. Donc, quand la situation sécuritaire sera résolue, nous estimons que les coopératives seront en bonne santé. En tout cas, l'insécurité qui demeure le défi le plus majeur au sein des secteurs des coopératives.
Monsieur Henri Mouzalioua, je rappelle que vous êtes le point focal de la PROSEC au Nord Kivu. Radio Capi vous remercie.
C'était notre invité, le point focal provincial de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit à PROSEC Nord Kivu. Henri Mouzalioua s'entretenait à Goma avec Denis Lukesso. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo, Didone Nyangasa, la mise en onde. À l'air non, je vous dis merci de l'avoir écouté.